Cet après-midi, j'ai l'honneur, le plaisir de, voilà, de vous présenter des chemins peut-être de traverse qui vont nous emmener vers d'autres langages, en tout cas d'abord celui de l'onirologie, avec Patrick Rebollard, qui est donc maître de conférence à l'université Nanzan à Nagoya, donc au Japon depuis 1992. Et qui travaille dans les études littéraires informatisées depuis 1989, après une formation à Paris 3 avec Henri Béard et Michel Bernard de l'équipe de recherche Hubert de Falaise. Et il est modérateur de la liste LITOR, c'est-à-dire littérature informatique, webmestre d'un site littéraire depuis 1996, auteur d'un blog nommé Le Journal Littéréticulaire depuis 2003, co-organisateur du colloque L'Internet littéraire francophone à Cerisy en 2005. Et voilà qu'il est tombé dans le post-exotisme en 2006.
Merci. C'est-à-dire récemment, quand même, hein, par rapport à d'autres. Je suis un jeune lecteur. Est-ce que vous connaissez une chanson de Blondie en 1979? Qui est intitulé Dreaming is Free. When I met you in a restaurant. Bon. Dreaming is free. Voilà, bon. C'est mon exergue. Merci, merci. Alors, j'ai une deuxième exergue qui est une longue citation de Balzac que je vous lirai pas. Vous la verrez dans les actes, c'est un extrait de La peau de chagrin, où il est question du rêve, évidemment, de l'écrivain. Je commence maintenant sérieusement le travail. Hein. La présente communication prolonge et élargit celle du 31 octobre 2008 à Fukuoka, où vous étiez tous, intitulée « Le langage du rêve chez Volodine », publiée dans les actes de ce colloque et également disponible en ligne sur mon site. Et quand je dis mon site, je pense au domaine berlol.net. Cette fois, je proposerai un ensemble de morceaux titrés de 1 à 19 qui forment un mobile auquel sont accrochés, sur le mode comparatif, des particules de critique quantique dont le sens global, dans votre esprit, se réalisera magiquement ou ne se réalisera pas. Cette série faisant partie d'un travail en cours pour lequel j'ai accumulé un grand nombre d'occurrences oniriques post-exotiques, parmi lesquelles il m'a fallu choisir, je vous prie d'excuser à l'avance si tel ou tel de vos rêves préférés ne sont pas commentés. 1. Le rêve comme phénomène étrange et familier. En effet, il s'agit d'abord d'une certaine activité du cerveau pendant le sommeil. Cette activité est généralement subie par l'individu, même si certains prétendent contrôler leurs rêves. Bien que les hommes essaient depuis longtemps de comprendre le rêve, comme activité ou comme contenu, ayant un sens ou n'ayant pas de sens, il faut bien avouer que le mystère reste entier. On ne comprend guère comment le rêve fonctionne, d'un point de vue physiologique ou psychologique, ni à quoi il sert, que ce soit pour le corps lui-même ou pour l'individu. 2. Le rêve comme message incompréhensible. De l'herméneutisme empirique ou magique qui en a fait une interprétation tantôt du passé, du présent ou de l'avenir, aux neurosciences qui tentent de savoir comment le physico-chimique travaille la mémoire, l'imagination et l'oubli, en passant par la psychanalyse qui veut y voir un moyen de communication de l'inconscient, le rêve a toujours été vu comme devant avoir un sens et servir à quelque chose. 3. Le rêve comme mot polysémique. On distinguera le sens premier du mot qui désigne donc cette activité cérébrale durant le sommeil, et le sens second qui désigne divers modes de la pensée, soit une pensée qui vague ou divague, rêvée ou rêvassée en attendant son train, soit une spéculation à visée personnelle, comme rêver de vacances aux Seychelles, ou à visée humaniste, comme le « I have a dream », de Martin Luther King en 1963. Ça ne nous rajeunit pas. Il y a des synonymes ou quasi comme songe ou onirisme. Et puis il y a la relation métonymique entre sommeil du latin somnus et songe du latin somnium. Les deux venant sans doute du grec, alors on verra avec des spécialistes, hein, sopnos ou hypnos, s'ils ne dorment pas déjà, l'un donnant le soporifique pour le sommeil lourd, et l'autre l'hypnose, plutôt du côté des images. Habituellement, on sépare très bien les sens premier et second, mais quand on lit dans Le Port intérieur, je cite, « Elle s'était mise à raisonner de façon oblique et tortueuse, en expliquant longuement l'inexplicable, avec des arguments puisés dans des rêves. » Il n'est pas certain que l'on puisse désambiguiser, ou que l'on veuille désambiguiser, comme s'il nous importait que ces deux sens, temporairement, se confondissent. J'en ai fait un doute. 4. Le rêve comme objet culturel. Partout dans le monde, le rêve a donné lieu à des interprétations, des préventions, des transcriptions et des transferts vers les beaux-arts et la littérature. Il y a des objets pratiques, comme les capteurs de rêve amérindiens ou dream catchers, qui sont des filets artisanaux fixés, j'ai vérifié avec des spécialistes, hein, aux fenêtres ou au-dessus des lits, et destinés à empêcher les mauvais rêves de passer, ou les mauvais esprits. Leur origine serait un esprit farceur araignée, selon Wikipédia, nommé Iktomi dans la mythologie Lakota, qui est une partie de la grande nation Sioux. Il y a des œuvres aussi inutiles, si l'on veut, qu'un poème de Baudelaire. Par exemple, la 63e fleur du mal, qui met en scène un mauvais ange, un incube morbide, après des siècles de bonnes paroles. Je vous le lis, ça s'appelle Le Revenant. Comme les anges à l'œil fauve, je reviendrai dans ton alcôve, et vers toi glisserai sans bruit, avec les ombres de la nuit. Et je te donnerai, ma brune, des baisers froids comme la lune, et des caresses de serpent autour d'une fosse rampant. Quand viendra le matin livide, tu trouveras ma place vide, où jusqu'au soir il fera froid. Comme d'autres par la tendresse, sur ta vie et sur ta jeunesse, moi je veux régner par l'effroi. Bien sûr, ce sont aussi des millions d'autres œuvres dont je ne parlerai pas pour me consacrer maintenant à celle du post-exotisme. 5. Le rêve comme témoignage. Les récits de rêve sont donc des témoignages. On témoigne, autant que la mémoire le rend possible, j'ai bien dit les récits de rêve, hein, pas les rêves, d'avoir vécu cette sorte d'aventure. Selon les cas, on croit ou l'on ne croit pas que cela veut dire quelque chose. Certains s'en font une religion, d'autres une thérapie. Mais que faire de ces récits de rêve que l'on trouve de temps en temps dans le corpus post-exotique ? Dans Biographie Murgrave, plusieurs passages sont intitulés « Rêves ». L'un d'entre eux raconte ainsi la fuite du Murgrave aux 18 pattes, pourchassé par les humains. Le texte, bien qu'à la troisième personne, adopte le point de vue du monstre, qui est à la fois, je le souligne, surpuissant et terrorisé. Je vous lis. Murgrave se mit à réfléchir sérieusement, tout en continuant à tracer d'angle en angle la courbe heurtée de sa fuite. Il serait difficile de s'en sortir. Il se trouvait encore au centre de la ville, et des milliers d'intelligences, dans quelques minutes, seraient concentrées sur la manière de le traquer et de l'éliminer. Par expérience et par habitude culturelle, Murgrave méprisait l'affrontement avec un ou plusieurs terrestres. Le problème posé par la rencontre avec quelques dizaines d'individus agressifs avait toujours été résolu de la même manière. Le choc frontal était toujours à son avantage. Mais là, il aurait à ruser et à combattre avec une ville entière. La probabilité de sa victoire était forcément plus étroite. D'autant, j'ajoute, qu'on lui balance des charbons ardents sur le dos, et bon, quand même pas facile. Hein. Témoignage peut-être, mais témoignage de quoi ? Dans Des anges mineurs, j'ai déjà proposé l'étude d'un autre récit de rêve, celui du narrateur retrouvant Sophie Gironde et une triplette d'ours blanches parturiantes dans, je le souligne, l'entrepont d'un paquebot. Bien que l'obstétrique n'ait jamais été son fort, le narrateur reste entre deux ponts, ou entre deux eaux, celle de la mer et celle des ours blanches, dans le seul but de ne pas quitter sa bien-aimée. En plein milieu de cette complicité, c'est l'excès du nombre d'oursons extirpés des ventres par la plantureuse sage-femme, plantureuse Gironde, sage Sophie, qui amènera le narrateur à douter de la réalité de cette situation, ce que Sophie ne lui pardonnera pas. Pour finir le narra dans le doute, la première ours s'était approchée de moi, elle était cabrée au-dessus de moi et elle rauquait. Dans ce rêve qui n'est pas que beau, c'est bien cette ambivalence, cette indécidabilité du statut du témoignage qui me semble caractériser les récits de rêves post-exotiques, comme militant ainsi pour une libération du rêve, du carcan des interprétations, qu'elles soient psychanalytiques ou aruspicielles. Je ne sais pas si vous connaissez le mot. Des auspices. Laissez-nous rêver insensément. Dreaming is free, chantait la Gironde Blondie en 1977. 6. Le rêve comme masque onirique. Je cite, « Le terme d'entrevoûte est un terme heureux. Il suggère des pratiques magiques, un envoûtement et en même temps une intimité musicale, faite d'onirisme entrecroisé, de réciprocité et de partage. Il met bien en évidence la nature circulaire de cette structure, sa courbure simple et solide. » C'est un extrait du post-exotisme en 1800. Ici, le langage descriptif parodie celui des notices et des nomenclatures, dont la neutralité syntaxique veut tout de même imposer des valeurs. Le nom est heureux, et l'objet lui-même simple et solide. Mais la matière composite de l'entrevoûte n'a rien de textuel. En effet, comme je viens de le lire, elle est faite d'onirisme, de réciprocité et de partage, soit une activité cérébrale incontrôlable, d'un côté, et des conditions abstraites de l'autre. Si la réciprocité et le partage correspondent à l'antre de l'entrevoûte, les rêves entrecroisés constituent donc là où les voûtes. Récupérant au passage dans le circulaire l'arrondi architectural nécessaire au soutien de l'ensemble. Comment tout cela devient-il un genre littéraire? Grâce à des pratiques magiques. Bien sûr. Sans doute les mêmes que celles qui ont permis la naissance de Will Scheinman dans Des anges mineurs, à partir de vieux chiffons, dont je rappelle qu'il servait également à fabriquer du papier d'imprimerie. Au lieu de parler de rêves entrecroisés, présupposant des unités de rêves détachables et assignables à tel ou tel rêveur, des rêves à l'unité qu'on pourrait assembler, le texte propose l'expression « onirisme entrecroisé », c'est-à-dire une abstraction non comptable, une matière de rêve, comme dirait Butor, dans la virtualité de laquelle ont été agrégés, entrecroisés des rêves dont on ne pourra plus retrouver ni l'unité originale, ni l'auteur. Plus loin, dans le même livre dont la dimension métatextuelle est ostensiblement mise en avant, sont proposés des, je cite, « vocables spécifiques » destinés à compenser l'inadaptation des termes de la critique littéraire, tant pis pour nous, dans le cas du post-exotisme, revendiqué alors comme une, je cite, « littérature partie de l'ailleurs et allant vers l'ailleurs », par antithèse des littératures ayant des racines et des cibles. L'audace épistémologique de l'auteur de cette partie du livre, Lutz Bassmann, lui-même, laisse tout de même perplexe quand on voit les termes proposés et lorsqu'on se demande comment ils pourront bien être utilisés par des critiques. Si l'on comprend bien l'intérêt de l'hétéronyme anonyme, je cite hein, les termes de la nomenclature, ou du filigrane narratif, on reste perplexe devant des notions comme celle de dévoyage simple, ou, pour ce qui nous concerne ici, le masque onirique, qui aurait un usage parmi les, c'est le titre de la catégorie, termes renvoyant à des particularités de la fiction. Est-ce une dimension fictionnelle permettant de cacher, masquer une réalité sous un rêve, un peu comme la fable utilise des animaux pour parler des hommes, un peu comme dans l'art poétique du Cacciabacchiaro d'Alto Solo? 7. Le rêve comme discours. À son avis, et quand je dis son, je pense à Yacoub Cacciabacchiaro dans Alto Solo, je cite, « À son avis, les rêves contenaient des clés indispensables pour comprendre l'état du monde, pour apprécier les données de l'époque historique, le niveau moral auquel l'humanité stagnait depuis des siècles. C'est pourquoi, en son analyse des choses, il incluait de vastes portions oniriques de l'univers. Sur ses portraits d'hommes et de femmes, il greffait des comportements somnambulaires, des modes nocturnes de pensée. À ces personnages, il prêtait des dessins saugrenus, proches de la folie. Yacoub Cacciabacchiaro semblait travailler sur d'abstraites fantasmagories, mais soudain, ces mondes parallèles, exotiques, coïncidaient avec ce qui était enfoui dans l'inconscient du premier venu. Soudain, par le souterrain des mirages, on débouchait sur la place principale de la capitale. » Et quelques lignes plus bas, exotique est le terme que l'on applique à des particules déconcertantes, mais fondamentales, de la matière. Ici, le recours au rêve comme mode de discours et d'argumentation permet, par la magie du souterrain des mirages, d'arriver prétendument en plein cœur de l'interprétation du monde. Mais nous ne sommes pas dupes de cette logique, de ce logos magique que l'on retrouve par exemple dans le nara de l'ange mineur Fred Zempfel. Je cite, « Je ne plierai pas le genou devant la mort. Quand cela viendra, je me tairai, mais je dénierai toute vraisemblance à cette gueuse en approche. Ce sera une menace pour moi sans conséquence. Je ne croirai pas en sa réalité. Je conserverai grands ouverts les yeux, comme j'ai pris l'habitude de le faire de mon vivant, par exemple dans les périodes où j'imagine que je ne rêve pas et qu'on ne me séquestre pas à l'intérieur d'un cauchemar. On ne clora pas mes paupières sans mon accord. Je m'obstinerai un petit peu plus loin, je m'obstinerai dans mon système qui consiste à affirmer que l'extinction est un phénomène qu'aucun témoignage fiable n'a jamais pu décrire de l'intérieur et dont par conséquent tout démontre qu'il est inobservable et purement fictif. Avec force, je rejetterai comme sans fondement l'hypothèse de la mort. » Sans doute sommes-nous nombreux à résoudre ainsi en rêve des questions de discours, de philosophie ou de société avec une facilité déconcertante, mais qui, au réveil, lorsqu'on y repense, révèle, hélas, son inconsistance ou sa stupidité. Cela n'empêche pas ce discours de la négation de la mort de se reproduire en maintes œuvres du post-exotisme et d'être consolateur pour les survivants, pourtant peut-être déjà mort, comme dans le post-exotisme en Dilson, je cite, « Comme toujours, lorsque l'un des nôtres était assassiné, nous constituâmes un collectif portant son nom. Sa voix vibra avec la nôtre, dans la nôtre. Sa mémoire continua à exister, à remuer des souvenirs que nous pouvions nous approprier, et elle continua à fabriquer des images où nous nous déplacions avec bonheur, des rêves qui niaient le réel, et qui le subvertissait. » 8. Le réel comme métaphore. Je cite, accrochez-vous, « Tariana posait sur moi l'infinitude de ses prunelles, grises comme une source d'eau noire sous la lune, bleutées comme une renarde blanche dans les brumes du petit matin, merveilleusement brillantes et grises, belles comme un miroitement de neige dans un rêve de lichen. Plus belles encore en diaprure d'anthracite, chiffrées au plomb galactique, plus mystérieuses et plus belles encore. À la métaphore hyperbolique de l'infinitude des prunelles, qui valorise la profondeur du regard, succèdent les valeurs inversées du gris, de l'eau noire, de l'astre de la nuit. La comparaison à une renarde, d'autant plus furtive qu'elle est dans les brumes matinales, la reprise comparative, belle comme, devient progression jusqu'à réaliser dans la phrase cette infinitude avec plus belle comme, plus belles encore, pardon, plus mystérieuse et plus belles encore, qui n'a plus de comparant, la phrase est finie. Dans cette ambiance baudelairienne, la composition très délicate enserre le rêve de lichen entre la renarde d'un côté et l'anthracite et le plomb de l'autre côté, c'est-à-dire dans une progression inversée de l'animal vers le minéral, du vivant vers le non-vivant, qui est aussi une progression positive du temporel vers l'éternel. Ça, vous avez bien compris ?
Oui.
Dans ce système inversé, le lichen, qui est une sorte de degré zéro du végétal, par rapport aux fleurs colorées et aux arbres immenses qui ont tout du vivant, le lichen est le thème ou l'objet d'un rêve dans lequel la neige vient proposer son miroitement, ajoutant la froideur cadavérique à la blancheur lumineuse et à la maigreur végétale. C'est comme si le poète, convoqué dans le sonnet de Baudelaire intitulé « La beauté », répondait intertextuellement à la parole de la belle allégorique, sonnet qui contient également la blancheur, la neige et des yeux, des, je cite, « larges yeux aux clartés éternelles », et dont je vous rappelle le premier quatrain, ça fera de mal à personne, avec moi, « Je suis belle, ô mortel, comme un rêve de pierre, et mon sein, où chacun s'est meurtri tour à tour, est fait pour inspirer au poète un amour éternel et muet, ainsi que la matière. » Au travers des métaphores et par le chemin des rêves, Volodine dialogue avec Baudelaire, qui pourrait bien être un des autres internés de la Balkyrie. Cette communauté des écrivains se trouve alors comme décrite sur la quatrième de couverture du prochain « Écrivain », justement, où Lindaou est citée, je cite, « Leur mémoire est devenue un recueil de rêves. Ils inventent des mondes où l'échec est aussi systématique et cuisant que dans ce que vous appelez le monde réel. » L'inversion baudelairienne de la valeur civilisationnelle, de la valeur civilisationnelle de la métaphore du beau est un des marqueurs de la modernité. Nous a-t-on appris à l'école. Dans le post-exotisme, cette inversion est reprise et généralisée, comme si un siècle et demi de progrès avait, progrès entre guillemets, non, non, pour tout le monde, avait mené l'humanité plus loin que le pire cauchemar de l'auteur des Fleurs du Mal, qui n'avait en effet pas connu les deux guerres mondiales, les génocides, les goulags, les bombes atomiques, les catastrophes pétrolières, etc. 9. Le rêve comme moyen de transport. Prenons comme hypothèse de travail qu'il se déplace de rêve en rêve. Difficile de souder des rêves à la muraille. C'est un extrait de la biographie comparée de Jorian Murgrave. Dans Alto Solo, l'oiseau Ragogine, je cite, « essaie de rejoindre son groupe par le chemin des rêves. Il s'imagine qu'il réussira à rétablir, en dormant, le contact. Jusque-là, ses assoupissements vertigineux ne l'ont entraîné nulle part. » Will McGrodno, aussi, la nuit, je cite, « visitait une colonie d'oiseaux qui évoluait dans un paysage bleu, habitait des grottes en altitude au creux d'une falaise bleue, à proximité d'un volcan bleu, dont les fumées ouataient des vallées tranquilles, des plaines de bruyères bleues. Je cite encore, « Dans l'imaginaire de notre âge d'or, la gueusaille des cellules d'isolement reçut de plus en plus souvent le rôle principal que nous avions autrefois dans nos romances, réservées pour les guerriers et pour les prophètes avec armes. Pour tous ces voyageurs de l'onirisme et de la subversion que, tendrement, nous accompagnions, mettions en texte et adorions. Les huis clos devinrent fréquents, et certaines années, comme en 2003 et 2004, ils ne laissèrent place à aucune autre thématique. L'enceinte étanche pouvait varier, l'enfermement physique ici et là se doublait d'un enfermement psychique qui interdisait la libération par le rêve. » Quelques lignes plus loin. « Mais en général, personnages et narrateurs ne nourrissaient plus aucune nostalgie envers l'envers du décor. » 10. Le rêve comme thérapie. Je cite, « Les rêves ne distillent leur secours qu'au compte-gouttes. » Dans Alto Solo, « Bon, il faut que je trouve une autre pharmacie. » 11. Le rêve comme maladie. Je cite, « Le gothique laisse dans l'âme des traces bizarres, pesantes, comme un rêve qui ne veut pas s'éteindre, qui s'accroche à la peau intérieure de votre visage et le ronge de manière inexorable, que ce soit le jour ou la nuit, sans s'apaiser. » Dans Biographie comparée de Jorian Murgrave, bon ok, il faut vraiment que je trouve une autre pharmacie. 12. Le rêve comme slogan, ou comme injonction, ou comme mot d'ordre. Je cite, mais je ne sais pas d'où. Rêve mille ans. Rêve mille ans sans croire que le songe existe. Rôde mille ans. Rôde sans croire que l'espace existe. Aime mille ans. Aime sans croire que l'amour existe. C'est... Dans songe, mais évident. Merci. J'ai perdu dans un copier-coller. D'une part, l'ordre de rêver est irréalisable. On est bien d'accord. Bon. D'autre part, l'ordre de ne pas croire que le songe existe pendant qu'on est en train de rêver, pour le cas où l'on parviendrait tout de même à obéir à la première injonction, c'est un ordre paralysant, une aporie circulaire, reprise dans les deux ordres suivants sur l'espace et sur l'amour. En fait, on ne sait pas si on nous demande d'obéir aveuglément, c'est-à-dire de devenir stupide, ou au contraire, de s'élever au-dessus des contradictions, de faire preuve d'intelligence supérieure. Ce qui n'est pas toujours possible non plus. Nombre de slogans post-exotiques, au-delà du thème onirique, seraient à voir comme des pièges philosophiques, à la façon des préceptes de la pensée zen, très loin du milieu social où l'homme normal parvient habituellement à survivre. Autrement dit, l'obéissance aux slogans post-exotiques est inhumaine ou surhumaine, comme dans les injonctions qui se trouvent dans les chants de Maldoror. Ce qui va nous poser des problèmes pour le prix Nobel à Volodine, parce qu'il faut commencer par prouver que le post-exotisme est un humanisme. D'ailleurs, Lautréamont ne l'a pas eu non plus. C'est vrai. Je ne sais pas comment ils l'ont lu. Hein. Bon. 13. Le rêve comme piège. Je cite Biographie comparée. Nous allons modifier sa mémoire et y semer la confusion. Il va être obligé de fuir le long de ses souvenirs en les reconnaissant de plus en plus mal. Il va se réfugier dans ses rêves. C'est là que nous allons essayer de le contrôler. Ses cauchemars et la réalité formeront un labyrinthe dont il ne sortira pas. Labyrinthe. Le rêve est donc souvent piège, labyrinthe, voire nasse ou glu onirique dans les anges mineurs. Mais piège à quoi? Nasse à quoi? Ah, bon, c'est un jeu de mots pour les japonisants, parce que nasse en japonais, ça veut dire aubergine. Bon, c'est pas grave. Nasse à quoi ? Une nasse n'est jamais une nasse à n'importe quoi. Or, ici, si. Ou non, je ne sais pas. A priori, on ne sait pas de quoi un rêve est. Un rêve est, mais on ne sait pas de quoi. On dit après coup que c'est un rêve de ceci ou de cela. Et disant cela, on trahit systématiquement le rêve. Il n'existe aucun enregistrement de rêve permettant d'analyser réellement son contenu, sa forme ou son sens. C'est ce que j'appellerais le piégeux des rêves. Tous les rêves sont piégeux. Les surréalistes le savaient, Volodine le sait, le post-exotisme en témoigne à chaque page, n'en déplaise aux psychanalystes. 14. Le rêve comme souvenir. Dans le port intérieur, je cite, « Il se souvient mal de ses rêves. » Banalité qui concerne beaucoup d'entre nous, on saute. 15. Le rêve comme lieu de rencontre. C'est bien ça, lieu de rencontre. Je cite, « Tu penses à Gloria Vancouver, que seuls les rêves et la pitoyable magie de l'écriture te permettent de rejoindre. » Et après quelques secondes, tu penses à Cotter. Cotter. Bon. Celui-là viendra, et comme il ne croira pas à la mort de Gloria, il. Point. Je cite. Le port intérieur, merci. Et la suivante, c'est Nuit blanche en Valkyrie. C'était une nouvelle collaboratrice de Cotter, donc le même, il revient. Je l'avais déjà rencontré plusieurs fois dans le camp, et depuis, fasciné, à maintes heures d'insomnie, j'avais répété son nom de façon nostalgique, à maintes heures de murmure. Tariana, Tariana. Un peu le style Antinéa, vous voyez. Avec l'espoir de la transférer en moi, et de la rejoindre ensuite dans une sphère quelconque du monde crânien ou du sommeil, loin de l'inégalité Balkyre. Il est à craindre que ce téléchargement illégal de Tariana tombe sous le coup de la loi Hadopi. Il fait également penser à un rapt suivi de viol, à la façon de Zeus avec Europe, tel que la mythologie nous le présentait dans les manuels scolaires, c'est-à-dire sans trop entrer dans les détails. Mais le cadre du sommeil évoque plutôt le désir de suruquer avec une succube. Ce qui est une acception classique du rêve érotique, ici à la sauce Balkyre. Retrouver en rêve, ou souhaiter retrouver en rêve quelqu'un que l'on aime ou que l'on a aimé, c'est aussi une banalité. Le post-exotisme y recourt pourtant, mais toujours en accentuant le caractère désespéré et improbable de la rencontre, ou en modifiant les conditions de perception de la compréhension de la rencontre, ce qui a pour effet, peut-être volontaire, de perturber le lecteur. De plus, comme dans la première de ces deux citations, le rêve et l'écriture sont souvent associés, confondus ou interchangeables. La parenté ou la synonymie entre rêve et écriture apparaîtrait dans des dizaines de citations. Quand la réalité de la vraie vie est si contraignante, l'écriture apparaît d'ailleurs, vu de loin, comme un moyen de faire advenir n'importe quoi, tout ce que l'on souhaite par un coup de crayon magique. Cependant, ceux qui se prétendent écrivains n'y parviennent pas tous. Nombreux sont ceux qui calent. Indirectement, ce topos post-exotique est aussi un indice, me semble-t-il, que pour cet auteur-là, l'angoisse de la page blanche ou de l'écran vide, n'existe pas. Par ailleurs, la plupart des rêves sont des lieux de rencontre. C'est le type et la qualité de la rencontre qui font la différence. Dans « Un exorcisme en bord de mer », la première partie avec les moines soldats, nous avons affaire à une rencontre du troisième type qui décime littéralement la famille Schwann. Un moine soldat tourne autour d'une maison en bord de mer un jour de pluie, on se demande ce qu'il veut. Puis, sans raison apparente, il lance des grenades dans la maison et met le feu. On se dit qu'il doit avoir un grain. Mais des silhouettes apparaissent l'une après l'autre dans les flammes et il les descend à coups de pistolet. Ce sont d'abord deux femmes, puis un bébé, puis encore un homme et une femme de l'autre côté de la maison, enfin une dernière femme que le tueur laisse approcher de lui, elle lui plante un couteau, il la bat et se suicide, avec la dernière de ses 17 balles. Pour chaque personne abattue, l'exorciseur dit son nom et lui demande de partir de ce lieu et de ce rêve. On ne sait pas si l'exorcisme a seulement pour but de libérer le lieu de la présence de cette famille, ni si le moine, qui porte le même nom de famille que les personnes abattues, rêve lui-même l'ensemble de la scène. Maria, qui parvient à lui mettre un coup de couteau, lui dit, elle aussi, qu'il dort et qu'elle va l'aider à aller ailleurs, sans dire où non plus. Finalement, outre l'enchaînement des actions qui est fort bien décrit, comme dans une séquence filmique, nous ne comprenons rien à cette histoire, parce que nous n'en connaissons pas les présupposés, à savoir quelles sont les causes de cette situation, qu'est-ce qu'on fait ou subit les chouannes qui justifient qu'on les tue, et quels sont les objectifs de la mission, au-delà de la simple suppression des personnes, si on peut appeler cela des personnes. Par le livre tenu, le lecteur se trouve lui aussi sur les lieux de la rencontre, et il est témoin, comme un rêveur, de ce qui s'y passe, sans comprendre. Il est dérangé par ces apostrophes aux trucidés. Il est troublé ou scandalisé par cette absence des causes et des objectifs. Dans cet état de choc, la mention du rêve dans lequel les uns ou les autres seraient vient dédramatiser la situation en déréalisant l'action. Le rêve joue le rôle d'une atténuation de la violence, d'une euphémisation des horreurs commises. Avec cette autre excuse, in fine, que, comme on ne sait pas pourquoi... 16. Le rêve comme intertexte. Tout le monde attend 19. Hein. Dès qu'un lecteur commence son deuxième livre ou son troisième livre de Volodine, il est possible qu'il éprouve une forme de retour des personnages, très balzacienne, hein, on l'a déjà dit, une forme de reprise d'un type de lieu ou de répétition d'un des autres motifs qui composent l'écriture, comme les araignées, le pémican, l'interrogatoire, la lune, etc. Le rêve sera l'un de ces motifs, et le retour de ce motif, si l'on s'y intéresse, à l'instar du Molope au plafond, de la biographie comparée de Jean Milgrave, qui s'intéressait au rêve, je cite, transformera, je cite, le rêve comme moyen de transport, vu précédemment, en mise en abîme de ce qui arrivera au lecteur, car c'est lui maintenant, le lecteur, qui aura l'impression de se déplacer d'œuvre en œuvre en empruntant le véhicule des rêves. Plus largement, à l'échelle de la communauté des lecteurs, et grâce à cette circulation intertextuelle, l'auteur, c'est-à-dire l'individu qui se fait ici même nommer Antoine Volodine, peut visualiser l'univers à N dimensions de ses œuvres, parcourues en tous sens et à toute heure par des post-exotes errants, d'un songe de Mevlido à un rêve de suie, en passant par des limbes mineures, des marges dernières, des bardeaux de secours et des détroits intérieurs. Autant d'espaces de nulle part, devenu constitutif de leur pacte, de notre pacte communautaire. 17. Le rêve comme rêve de rêve. Plusieurs possibilités. Le cas Chuang Tzu. L'homme ne sait pas s'il est un homme qui rêve qu'il est un papillon ou un papillon qui rêve qu'il est un homme. Bon, tout le monde connaît cette histoire. Repris par Queneau dans Les Fleurs Bleues. Très drôle, hein, le quenon. Le cas, donc deuxième cas, de la personne qui rêve d'une autre personne pendant que l'autre personne rêve de la première. se rencontrent-ils ? J'ai déjà vu ça quelque part, mais je ne sais plus où. Là, ce n'est pas une figure, hein, c'est vraiment une question. Si quelqu'un a souvenir d'une œuvre où ce genre de... Enfin, ce cas de figure arrive, ça m'intéresse. Donc, je répète, une personne qui rêve d'une autre personne pendant que l'autre personne rêve de la première. Troisième cas, que j'appelle « emballement de la machine à mettre en abîme », sans doute à visée totalitaire. Exemple de ce dernier cas dans « Nuit blanche en Valkyrie ». Je cite « Le local avait communiqué autrefois avec la cantine. On avait stocké des produits périssables. » Un peu plus loin. « Dans cette atmosphère, il fallait élaborer des œuvres pour Gold. Rêver à ce qui ferait rêver les masses. À ce qui les galvaniserait et les éduquerait jusqu'aux larmes ou jusqu'aux réminiscences de larmes. » L'enchâssement est ici motivé par la stratégie médiatique consistant à concevoir les supports de la manipulation des masses. La fiction historique et politique qui permettra de garder le pouvoir, ce qui est exactement la politique planétaire d'aujourd'hui. 18. Le rêve comme réalité. Certaines scènes, présentées comme réelles, mais proprement incroyables, semblent plutôt droit sorties d'un rêve. Semblent. Ainsi, le pastiche de littérature d'exploration vers les Dawks, Ange mineur numéro 5, est bien estampillé du sceau, je cite, des historiens dans leurs travaux, et daté du 25 mai, samedi 25 mai. Mais d'étranges étirements du temps et de l'espace nous font, comme Sophie Giron de tout à l'heure, douter de la réalité. En effet, l'expédition était partie, je cite, l'année précédente, comme s'il s'agissait d'immenses étendues désertiques et hostiles. Pourtant, les explorateurs trouvent à hiverner au, je cite, 12 de la rue Cormatin, où le capitaine avait une cousine qui sous-louait une chambre. Patatras ! Ceux qui s'étaient distendus et anoblis par la mention du temps se rétractent par celle de l'espace. Et c'est toute la bravoure de l'expédition qui est soudain ramenée à une trivialité urbaine. Le ton est donné et la crédibilité perdue, malgré les, je cite, « quelques décès qui ponctuèrent la monotonie du voyage ». Et les Dawks dans tout ça ? L'un, je cite, « profitait de son congé pour laver sa voiture », l'autre arrivait peu après avec une carabine de chasse. Rien ne justifiant, je pense, qu'une expédition leur soit consacrée. À votre avis, les 5 minutes face à face et silencieuses entre Balthazar Bravo et Ismaël Dox méritent-elles vraiment les risques encourus par l'expédition ? Quand les conditions de la rencontre sont inadéquates ou trop incomplètement établies, cela entraîne que le récit entier perd toute vraisemblance. En revanche, l'hébétude et l'incommunicabilité lors d'un événement ou d'une mise en présence trop bizarre correspond possiblement à un souvenir de rêve de tout un chacun. En fait, en dehors des occurrences du mot « rêve », « songe », « onirique », etc., c'est-à-dire des passages officiellement oniriques du corpus post-exotique, c'est bien la plupart des parties du corpus lui-même qui sont empreintes de cette étrangeté qui leur donne une couleur et une profondeur onirique. C'est aussi le meilleur moyen pour qu'à tout moment, des ailleurs post-exotiques, à l'instar des œuvres de Kachbakiro, le lecteur débouche toujours quelque part en plein centre de la capitale. 19. Le rêve comme conclusion. En fait, ayant déjà provisoirement conclu dans les paragraphes précédents, je me bornerai à citer une phrase des 11 rêves de suite, apparaître, et qui me permettra un jour au moins en rêve de prolonger cette onirologie. Je cite « Tout avait commencé à l'intérieur d'un rêve, puis le système s'était mis à fonctionner sans accroc. Elle parcourait une vie normale, associée à une demeure principale, et ensuite, quand le temps de l'extinction personnelle s'approchait, Une force la poussait à changer de lieu d'habitation, souvent d'une manière étrange ou pendant son sommeil. Elle aboutissait dans une autre existence, dans la demeure suivante, et elle reprenait tout à zéro, comme tout le monde. Ainsi, grâce à Antoine Volodine, j'ai admis l'échec quasi permanent de la communication. J'ai mieux compris le rêve idiot dans lequel nos communicants nous enferment et nous consomment. Enfin, j'ai commencé moi aussi à creuser les murailles universitaires pour me frayer un passage jusqu'aux docks de Cerisy. Ici, maintenant. Merci de ne me réveiller qu'après ma mort. Merci de m'avoir écouté et peut-être, ne serait-ce qu'une seconde de rêve, entendu.
Merci, mais il faut le chuchoter pour ne pas le réveiller, hein, ça serait dommage. Hein. Il est parti et il nous a emmenés dans cette jubilatoire narratologie à travers les chemins et les souterrains des rêves, des mirages. Est-ce que vous voulez l'y rencontrer?
Ça me rappelle qu'il y a un passage, je ne sais plus dans quel livre, où il y a quelqu'un qui fait une conférence devant des oiseaux et des feuilles mortes.
Mmh. Merci.
Non, je ne dis pas que vous êtes des oiseaux. Non, mais comme vous dites rien. Voilà. Oui.
Merci beaucoup. On dirait au Québec que c'est du bonbon. Parce qu'il n'y a pas besoin de l'expliquer. Je voudrais savoir comment vous l'avez construit. C'est-à-dire, est-ce que vous êtes parti d'une banque de citations, puis c'est ça qui a permis l'élaboration? Comment cet ovni est apparu?
D'abord, j'avais l'idée de faire des pièces détachées. Et puis, j'avais commencé à accumuler des citations depuis un an à peu près. J'ai préparé un site internet dans lequel j'ai mis toute la bibliographie. Et puis une partie des contenus des articles qu'on trouvait sur Internet. Et puis j'ai invité quelques-uns des Volodiniens à être membres de ce site, qui est sous la forme d'un blog avec un password. Et puis au fur et à mesure qu'il y avait des textes, j'ai cherché un peu dedans. Et Antoine a contribué en donnant quelques vieux articles de Shibboleth ou d'autres choses que j'ai mises également en ligne dans ce site. Et puis, j'ai commencé à rechercher donc le mot rêve, le mot songe, etc. et à accumuler des citations, comme vous disiez. Et après, je me suis rendu compte que ça servait à rien parce que c'était pas ordonné. Alors, il fallait trouver d'abord une idée d'ordre ou de structure pour qu'ensuite les citations puissent être posées ici ou là. Mais je trouvais pas d'ordre pour mettre de l'ordre dans les citations de rêve. Donc, j'ai fait une liste, quand est-ce qu'on est arrivé, lundi, j'ai fait une liste mardi de rêves comme ceci, cela, et puis ensuite, pendant les pauses, pendant que vous vous amusiez tous comme des petits fous, j'ai essayé de mettre des pièces comme ça, et l'idée est apparue que c'était une sorte de mobile un peu à la caldaire, avec des pièces qui vont bouger comme ça et circuler. Voilà. Et si certains parmi vous souhaitent être membres de ce site, eh bien, c'est 17 300 € actuellement, je crois, l'inscription. Non, je plaisante, c'est tout à fait gratuit. Hein, c'est ça, ouais.
17 300 à la semaine.
À la semaine. Voilà, non, c'est tout à fait gratuit. Simplement avec la contrainte que on sera un groupe de recherche. Et qu'il ne faut pas qu'il y ait trop de fuites à l'extérieur du site de ce qu'on met dedans, pour des problèmes de droit. Donc c'est un truc pour travailler ensemble. Donc voilà, vous m'écrivez.
Mais tu ne voulais pas le présenter justement?
Alors j'avais l'idée de le présenter, mais je ne sais pas comment on peut faire, parce que les ordinateurs qu'on a là-bas... ou bien est-ce qu'on peut connecter ici même, Catherine?
Quoi?
L'ordinateur à l'internet.
C'est compliqué.
compliqué.
C'est compliqué, hein. Ouais. Ouais. Faut, moi j'ai un câble, mais peut-être pas assez long pour aller là-bas. Bon. Non, mais en 2005, on a fait le colloque l'Internet littéraire francophone. On a mis du Wi-Fi dans cette pièce. On a mis des câbles un peu partout. Et puis, bon, je dirais pas que ça tweetait parce qu'en 2005, il n'y avait pas de Twitter. Mais ça communiquait bien, quoi. Mais ensuite, ils n'ont pas continué. Bon. Oui ?
Je peux proposer de... Ben, je lance l'idée, là, mais après le café, demain, de faire une petite séance.
Oui, alors on va à la salle là-bas, oui, aux quatre ordinateurs.
C'est ça.
Et puis je mets les ordinateurs déjà à l'avance, et puis après je vous explique, oui. Donc ceux qui veulent, voilà, après le café demain midi, c'est un horaire correct.
Ok. Sur la base du volontariat.
Oui, oui, voilà, c'est ça. Hein, c'est... Très bien, donc à demain après le café.
Alors, d'autres questions, rêves et autres.
Excuse-moi, mais 19, c'est pas très possible.
Ah, c'est un nombre premier. Hein.
49, tu imagines,
on serait
encore
demain. Mais ouais,
c'est pour ça que j'ai eu peur quand il a dit en 2016, vous attendez tous avec impatience.
J'ai pas tiqué. Non, mais j'avais dit 19 dès le début.
Oui, hein. Oui.
Ouais.
Excuse-moi.
Premier paragraphe. Hein.
Tu vois, j'étais déjà en.
Ouais, ouais. Ouais. Mais c'est vrai que j'ai pensé à 49, mais c'était trop long, ou alors il fallait faire plus court, puis c'est, bon, c'est pas sérieux, quoi. J'en ai déjà fait des courtes. Hein. La thérapie et la maladie.
En tout cas, bravo, ça correspondait exactement au temps imparti, donc félicitations du jury.
Merci.
Est-ce que d'autres questions ou remarques ou autres?
C'est pas exactement une question, Anne. C'est une demande pratique. Je crois que sur ton site, il y a les pièces radiophoniques, du moins certaines d'entre elles.
Oui.
Est-ce qu'il n'y aurait pas moyen justement de les communiquer à l'assistance et sous quel...
Alors en fait, on pensait les faire écouter ce soir. Si on fait ça, je ne sais pas à quelle heure c'est après le dîner.
Catherine, est-ce que le grenier... Enfin, je sais
pas, Philippe m'a dit qu'Henri Béard devait passer des DVD ce soir.
Ah,
ouais.
Donc le grenier, c'est
ça, ça peut être ici, alors. Ici.
Ben, il faut...
Et pourquoi pas la câble?
Oui, alors moi j'ai un câble qui permet de sortir le son de l'ordinateur et on branche l'écouteur.
Directement dans le cerveau.
Non, non, il y a des enceintes ici. Hein. Enfin, c'est pas des parturientes. Hein. Non, mais un petit câble audio. Ouais. Donc peut-être après le dîner ici même, venez au cas où. On écoutera donc, c'est quoi? C'est Outrage Amical. Et puis, j'oublie toujours le titre.
Le silence
de Myriam Maran. Voilà. Et donc, dans le site qui s'appelle Parapost Exotisme, il y a un certain nombre d'émissions de radio également, de France Culture. Et ces deux pièces radiophoniques que j'avais réussi à enregistrer en 2001... les autres passaient aussi, hein, mais j'ai pas pu les enregistrer. À cette époque, il n'y avait pas de conservation sur le site. Il fallait enregistrer en direct.
Alors, on peut peut-être envisager une pause.